Vous écoutez RTL.
RTL dimanche soir, le MacPol
avec Philippe Robuchon.
Le MacPol, le magazine politique de RTL avec Olivier Mazerolles qui s'installe dans ce studio. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
François Fillon, stop ou encore, candidat à la présidentielle jusqu'à quand ? Le rassemblement du Trocadéro cet après-midi n'aura pas apporté de réponse bien précise. En tout cas, il aura peut-être pesé, on ne sait pas dans quel sens. Le comité politique des Républicains qui se réunit demain soir, le mettra-t-il hors jeu, François Fillon ? Choisira-t-il un remplaçant, Alain Juppé ou un autre ? On verra. On va tout vous dire dans un instant sur ce qu'on sait des dernières infos. Un débat dans une minute avec vous, Olivier, et deux de vos confrères, Nicolas Domenac et Guillaume Perrault du Figaro. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Au sommaire également du magazine politique de la rédaction, que pensent les Français de cette campagne vraiment pas comme les autres ? Un exemple, les électeurs du Front National qu'on est allé rencontrer dans le Var à Bandol vendredi soir. On va réécouter, bien sûr, l'invité du grand jury aujourd'hui, c'était Gérard Collomb, un soutien d'Emmanuel Macron. Et puis dans la campagne en famille, on entendra les Vigny, une famille parisienne écolo. Elle nous dira ce qu'elle pense de l'accord Hamon-Jadot et de ses conséquences. Le MacPol, c'est parti jusqu'à 19h. Dans 63 jours, on connaîtra le nom du futur président de la République.
Le MacPol,
Philippe Robuchon.
Donc, Guillaume Perrault du Figaro, Nicolas Domenac et Olivier Mazerolles, avec vous, on va parler de cette journée un peu particulière. On était prêt à parler de tournant dans la campagne. Ben non, on ne peut pas parler de tournant parce qu'on ne sait toujours pas si c'est déterminant ou pas. Alors, selon vous, Olivier, François Fillon, cet après-midi, a-t-il avancé vers un retrait ou pas ?
Non, il n'a pas avancé vers un retrait. Il a simplement expliqué que finalement, il avait reçu l'onction des électeurs, que ces voix n'appartenaient pas à un parti politique et que donc il mettait en garde d'une certaine façon, il ne l'a pas dit précisément comme ça, mais les ténors des Républicains sur leur décision éventuelle de tenter de dépouiller, déposséder les électeurs qui sont manifestés en sa faveur de leur voix. Bon, alors ça n'arrange rien, parce que pour autant il est toujours très faible, mais il a effectivement un socle électoral et en plus, l'avertissement très important, je crois, c'est que vous aurez sans doute noté que dans les meetings de François Fillon, le Front National n'est pas sifflé, contrairement à l'alliance Bayrou-Macron. Ça signifie quoi ? Attention, dit François Fillon, si vous désignez Alain Juppé à ma place, regardez ce qu'il risque de se passer. Voilà.
Guillaume Perrault du Figaro, votre regard sur ce qui s'est passé au Trocadéro cet après-midi.
D'abord, une évidence, c'est que Fillon a réussi son pari du Trocadéro. Commençons par là. C'est-à-dire que la foule était là, en nombre important, l'enthousiasme était là. C'était réussi, c'était un rendez-vous réussi. Et Fillon peut affirmer que le lien avec ses sympathisants est toujours intact et qu'il n'est pas seul avec le dernier carré des fidèles. Il est en difficulté, évidemment, mais la situation est plus nuancée, plus complexe que la présentation qu'on a été faite parfois. Alors ensuite, est-ce qu'il s'avance vers un retrait ? Moi, je n'ai pas du tout eu l'impression d'un homme sur le point de renoncer à quoi que ce soit. Il avait un discours tout à fait combatif. Certes, il n'a pas dit explicitement « je continue », mais toute son attitude, les mots qu'il employait tendaient à démontrer qu'il entend bien continuer et être le candidat des Républicains à l'élection présidentielle. Et le message, comme l'a dit Olivier, c'est « Vous n'avez pas choisi un homme, vous, électeur de la primaire, vous avez choisi un programme. Et moi, Fillon, je suis le garant de l'application de ce programme, qui n'est pas celui que défendait Juppé, qui avait attaqué très violemment Fillon dans l'entre-deux-tours de la primaire. » Et pour les sympathisants qui étaient là et qui, je l'admets, ne représentent qu'une partie de l'électorat de droite, entre Juppé et Macron, ils ne voient pas toujours très bien la différence. Et Fillon a évidemment insisté sur cet aspect de la situation.
Nicolas Domenac.
Oui, moi je crois que la tragicomédie se poursuit. François Fillon avait dit il n'y a pas de plan B. Moi, immédiatement, j'avais dit s'il y a un plan B, comme Bérézina, c'est François Fillon lui-même. On y est. C'est-à-dire, il entraîne toute la droite vraiment dans le gouffre et en klaxonnant. On est encore à spéculer là, est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas. On va encore se poser la question, combien de temps est kidnappé ainsi le débat, enfin le parasiter et prendre en otage, je veux dire, tout le débat de la présidentielle par cette situation abracadabrantesque. Enfin, folle, je veux dire, où François Fillon lui-même a décrédibilisé ce qu'il était censé porter, c'est-à-dire une nouvelle pratique de la politique, de la clarté, la transparence, la probité, et tout ça est alors est en train de se naufrager, et que ce soit Alain Juppé demain ou pas, je veux dire, pour la droite qui croyait cette élection imperdable, elle est en train de la perdre en beauté, si j'ose dire.
On a l'impression qu'on est en train de jouer au jeu de qui reculera le dernier.
C'est un peu ça.
Hein, Olivier.
Ben, c'est-à-dire que, de toute façon, François Fillon, il a en sa possession les armes du droit, puisque personne, selon les statuts des Républicains, ne peut le destituer. Hein. Il n'y a que lui qui peut déclarer « je m'en vais ». Bon. Donc, si Alain Juppé se lançait, ce qui est invraisemblable, dans la campagne, il y aurait deux candidats de droite qui se chamailleraient comme des gamins dans une cour d'école primaire, sur le thème « c'est moi le candidat, c'est pas toi, mais si c'est moi, c'est pas toi ». Bon, donc, évidemment, ça ne se produira pas. De plus, François Fillon, il a introduit dans le débat, et évidemment, c'est pour muscler ses représentants et ses supporters, il a introduit dans le débat l'idée que, certes, il avait commis des fautes, parce qu'il a sans doute trouvé aujourd'hui des mots sur ses fautes qu'il n'avait pas trouvé jusqu'à présent. Mais, certes, j'ai commis des fautes, mais la Bérézina dont parle Nicolas, lui, il n'a pas utilisé ce terme, mais qui est en train de s'organiser, elle est aussi due à tous ceux qui m'ont lâché. Parce qu'au lieu de faire esprit de corps avec moi, ils ne font qu'accentuer encore le désarroi.
Oui, on va arrêter de faire des pronostics dans cette campagne, parce que de toute façon, on s'est toujours planté. il est dans deux heures maintenant, une heure et demie sur France 2 aux 20h. Que peut-il annoncer, selon vous, Guillaume Perrault?
Pour moi, il va réaffirmer les thèmes qu'il a développés cet après-midi. Il ne va pas nécessairement dire plus clairement « je continue ». C'est une hypothèse. Il a peut-être réservé cette primeur d'une déclaration claire et nette au journal de 20h, mais à mon avis, il ne le fera pas avant la réunion des cadres de demain, puisque le message qu'il va dire demain, c'est certainement « prouvez-moi que vous êtes capable de parvenir à un consensus pour me remplacer et reprendre à votre compte le programme que j'ai validé à la primaire ».
On rappelle que dans ce comité politique, il y a tous ceux qui étaient au premier tour de la primaire, hein, Nicolas Sarkozy,
Alain Juppé. J'ai quand même posé la question, est-ce qu'il pourrait demander à participer à ce comité politique qu'il a lui-même créé d'ailleurs après sa victoire à la primaire ? J'ai obtenu un grand silence à deux reprises. Donc, silence parfois vaut acquiescement, on ne sait pas.
Non, mais ce qui est terrible, c'est quoi qu'il dise ce soir, pardon, et je poursuivrai un peu ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, c'est qu'il laisse une droite totalement déchiré, lui qui était censé la rassembler. Déchiré au point de vue organisationnel, puisque maintenant la plupart des élus sont pour qu'il leur renonce, mais aussi sur le fond, puisqu'il se bat sur un programme qui avait été plébiscité par la primaire de droite, mais qui commençait à être rejeté, comme on avait vu dans les sondages, de manière vraiment massive. Donc là, il dit au fond, c'est notre programme à prendre ou à laisser maintenant, alors que ce programme n'est pas du tout celui qu'Alain Juppé prendrait ou que la droite modérée prendrait. Donc au fond, quoi qu'ils disent ce soir, il y a deux personnes qui applaudissent. C'est Emmanuel Macron et Madame Le Pen. Je veux dire, c'est le bilan de ce soir, il est là, tragique, pour François Fillon et ceux qui le contestent.
Merci Nicolas Domenac, merci Guillaume Perrault du Figaro. Restez là, vous allez revenir après les titres de 18h30 qui vont vous être présentés maintenant sur RTL par Quentin Vinet. Après la pub, à tout de suite.
RTL, dimanche soir.
Le MacPol, Philippe Robuchon.
Le MacPol, ce soir, on parle évidemment beaucoup de la journée cruciale pour François Fillon. On a en ligne l'un de ses derniers fidèles, en tout cas au sein de l'état-major des Républicains, c'est Gérard Longuet. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes sénateur de la Meuse. Êtes-vous réconforté ce soir ?
Je trouve que François a fait une formidable démonstration, la démonstration du soutien populaire dont il bénéficie. Sa candidature, elle se fonde sur des convictions, sur un diagnostic, sur des solutions, sur des valeurs. Et c'est ce que les électeurs de la droite et du centre veulent, ils sont venus le dire. Alors il y a évidemment une adhésion personnelle à François Fillon, mais il y a aussi et surtout peut-être la demande que quoi qu'il arrive, ce soit leurs idées, ces idées qu'ils ont choisies très largement et très massivement, qui soient les idées de la droite à ces élections présidentielles. Pour le reste, en effet, et je vous ai écouté avec attention, François Fillon laisse la porte ouverte et il s'exprimera lui-même, et je n'ai pas la prétention de parler en son nom.
Là, ce soir, France 2, ce sera déterminant ou pas, selon vous ?
Bon, je pense qu'il y a un iceberg, enfin une banquise qui est en train de se fracturer. C'était celle qui l'emprisonnait sur le terrain judiciaire. On voit très bien à travers le journal du dimanche, tel que les procès-verbaux ont été diffusés par la presse. C'est d'ailleurs une méthode assez étonnante, mais enfin, il faut s'y habituer dans notre pays aujourd'hui, qu'il n'y a aucun contenu dans l'offensive judiciaire contre François Fillon, en tous les cas rien qui ne mérite cette précipitation. D'autre part, c'est une enquête parfaitement à charge, parfaitement déséquilibrée. Je crois que le jeune Antonin Lévy, son avocat, l'a très bien démontré. Alors, tout ça, ça bouge. Est-ce que ça bougera suffisamment? Vous avez raison, l'opinion s'effrite, parce que l'opinion, malheur à celui par qui le scandale arrive, quelle que soit la justice, c'est une formule qui reste grande.
Monsieur Longuet, pour parler franchement, est-ce que vous ne croyez pas que les Français commencent à en avoir assez de ce feuilleton qui n'avance pas?
Oui, mais enfin, je veux dire très franchement, c'est pas François Fillon qui est à l'origine du feuilleton. Lorsque vous avez le procureur national financier qui se saisit en 3 heures, qui mène en 3 semaines une enquête exclusivement à charge, en diffusant d'ailleurs dans la presse et en violant donc le secret de l'instruction, les formules les plus agressives sans tenir compte des arguments de la défense, la malhonnêteté, elle est dans une procédure hâtive et bâclée. Mmh. Alors, dans 18 mois, on risque de se rendre compte qu'il n'y avait pas de contenu dans cette affaire, le mal aura été fait.
Alors, Monsieur
que
Longuet.
Que François Fillon soit la victime, que les électeurs de droite en soient la victime, j'en suis complètement conscient et je partage totalement votre avis. Les électeurs de droite, ils sont comme moi, je suis éprouvé.
Gérard Longuet, une question d'Olivier Mazerolle.
L'injustice, elle est chez ceux qui instrumentalisent la justice.
Gérard Longuet, la droite est prisonnière et dans une impasse dans cette querelle entre François Fillon et, disons, le comité politique. Alors, comment en sortez-vous de cette histoire?
Olivier Mazerolle, ce n'est pas une querelle, c'est un vrai conflit. Il est d'ailleurs parfaitement légitime. C'est, vous savez, l'éthique de la responsabilité et l'éthique de l'honneur. L'éthique de l'honneur, c'est de défendre quelqu'un pour qui on a voté et qui est injustement attaqué. L'éthique de responsabilité, c'est de donner des chances, les meilleures chances de victoire à son camp. Donc c'est un bon débat. Alors ce débat, François Fillon l'a ouvert, après tout, en disant « j'ai fait mon examen de conscience, faites le vôtre ». Et ça tombe bien d'ailleurs parce que je crois que lui parle ce soir, vous l'avez rappelé à l'instant, et le bureau politique des Républicains se réunit demain soir. On n'imagine pas qu'il décide seul, mais on peut imaginer qu'il ouvre un débat.
François
un
Fillon débat pourrait y participer?
Je pense qu'il aura suffisamment de voix pour porter son point de vue. S'il y participe, ce serait effectivement une bonne chose, mais c'est à lui de le juger.
Une question, Gérard Longuet, de Nicolas Domenach.
Oui, Gérard Longuet, si on vous a bien entendu, au fond, l'important est que dans l'élection présidentielle, vos idées soient représentées, même si ce n'est pas par François Fillon.
En tous les cas, moi je fais de la politique pour des idées, pour des convictions, et je n'entends pas qu'elles soient abandonnées lorsqu'elles ont été plébiscitées par l'immense majorité de la droite et du centre. Alors je préfère faire confiance à celui qui les a formulées, qui les a mises en forme, qui les a défendues et qui a obtenu une majorité. C'est la raison pour laquelle je pense profondément que François Fillon peut être celui-là, mais c'est à lui de choisir, et je trouve que sa formule est une formule honnête. J'ai fait mon examen de conscience, que les autres fassent le leur.
Merci Gérard Longuet d'avoir été l'invité de ce MacPol sur RTL. Merci, bonne soirée. En attendant de connaître le sort de François Fillon, sa décision et de savoir ce que décideront aussi les Républicains demain, parole aux électeurs maintenant. Beaucoup s'inquiètent évidemment du climat, de ce climat terrible qui écrase la campagne. Ils s'inquiètent ou parfois ils se frottent les mains. C'est le cas au Front National qui voit là la preuve qu'il faut en finir avec cette classe politique. On va entendre des supporters du Front National maintenant. Hugo Hamelin, l'un des correspondants de RTL en Provence-Alpes-Côte d'Azur, est allé vendredi soir à un meeting de Marion Maréchal Le Pen. C'était à Bandol, dans le Var.
Oui, à ce meeting, des profils très différents, beaucoup d'anciens électeurs de la droite traditionnelle. Jacques a longtemps cru en Nicolas Sarkozy, par exemple, avant de prendre sa carte au FN il y a 2 ans. Bien sûr, il suit avec attention les déboires de François Fillon et ça ne risque pas de le réconcilier avec le Parti des Républicains.
Moi, je serais à sa place, je te réponds. Hein. Je vais te les poches parce que bon, il a escroqué, il a mis de l'argent dans sa poche. Il n'y a rien qu'à voir son manoir pour entretenir tout ça, hein. Il faut de l'argent, hein. Pour moi, c'est un escroc. Sous Robespierre, il aurait été guillotiné. Bon, moi, je suis contre la peine de mort.
Ça, c'est aussi le cas de Cyril, puisqu'il est avocat au barreau de Toulon. Il aurait pu voter pour François Fillon, mais le Penelope Gate l'en a définitivement dissuadé.
Je dois vous dire que j'ai voté pour lui lors de la primaire, parce que je crois que c'était le candidat qui était le plus proche de mes idées. Mais j'ai été très déçu bien évidemment par son comportement, par le fait qu'il s'est engagé à ne pas se présenter s'il était mis en examen et qu'aujourd'hui il va l'être et qu'il continue. Je crois que cette manifestation est une très mauvaise idée. Il devrait s'abstenir de se présenter.
Pourtant, Marine Le Pen, elle aussi, est concernée par des affaires judiciaires qui touchent le financement de sa campagne ou le travail de ses assistants au Parlement européen. Mais André et René, un couple de retraités qui pourraient voter FN si François Fillon abandonnait, ne perçoivent pas ces enquêtes de la même manière.
Oui, mais parce que ça concerne plutôt l'Europe, les fonds européens. C'est plus loin de nous, on y fait moins attention, je pense.
Fillon, ça me paraît grave dans la mesure où il a démarré sa campagne, si vous voulez, en étant l'homme vertueux. Et en fait, il a tapé dans la gamelle comme beaucoup.
Mais Marine Le Pen, elle se présente aussi comme une candidate un peu moraliste.
C'est mineur. L'affaire qu'on lui reproche est mineure.
Eh bien, l'idée est de se permettre tout et n'importe quoi contre nous, avec évidemment la cabale judiciaire habituelle. Hein, ça, à la limite, on est rodé à l'exercice. Mais...
En fait, contrairement à la droite traditionnelle, le FN s'est habitué aux opérations de déstabilisation et aux procédures judiciaires. Pour Sabrina, tous les candidats sont désormais sur un pied d'égalité.
Ceux qui votent le Front National, on est tous des mauvais, des gens qui ne sont pas fréquentables ou autres. Aujourd'hui, on peut dire, voilà, on est tous sur la même longueur d'onde, on est tous pareils et il n'y a pas un candidat mieux que nous. Et je resterai toujours, et même si Marine a des casseroles, je resterai toujours au Front National parce que quand elle parle, je me reconnais dans ce qu'elle dit.
Une proximité avec son électorat, un parti qui s'est aussi construit en opposition aux institutions, c'est peut-être ça la recette du Front National pour survivre aux affaires.
Un reportage signé Hugo Hamelin, l'un des correspondants de RTL à Marseille. On va marquer une petite pause dans ce MacPoll à 18h41. Dans un instant, on va parler d'Emmanuel Macron, puisque l'un de ses lieutenants, Gérard Collomb, était tout à l'heure à la mi-journée l'invité du grand jury. Et puis on reparlera bien évidemment de François Fillon juste après. À tout à l'heure.
RTL, dimanche soir.
Le MacPoll, Philippe Robuchon.
Dans le MacPoll, on va parler d'Emmanuel Macron maintenant, puisque l'invité du grand jury RTL, Le Figaro LCI, tout à l'heure, c'était l'un de ses fidèles soutiens, le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb. C'est vous, Olivier Mazerolle, qui l'avez interrogé avec Guillaume Roquette du Figaro et Christophe Jacubizine de LCI. Gérard Collomb s'en est pris aux programmes économiques, évidemment, de Marine Le Pen, de Benoît Hamon. Et concernant la droite, eh bien, il s'est déjà placé quasiment dans l'hypothèse où Alain Juppé remplacerait François Fillon. Un Alain Juppé dont les idées ne sont pas toujours si éloignées de celles d'Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qui différencie les deux hommes? Pourquoi a-t-il choisi Macron et pas Juppé? Pourquoi dit-on également qu'un homme comme Jean-Louis Borloo pourrait rejoindre Juppé et pas Macron? Écoutez les réponses de Gérard Collomb.
Le problème, si vous voulez, d'Alain Juppé, ça va être le programme de sa majorité présidentielle, parce qu'il va retrouver en face de lui des gens qui avaient été désignés pour appliquer une politique qui est celle de François Fillon. Donc, sur quel programme va-t-il gouverner? Moi, je dois dire, aujourd'hui, je n'en sais rien.
Mais on voit bien qu'Alain Juppé, par exemple, dans un sondage déjà, il est beaucoup plus dangereux pour Emmanuel Macron que ne l'était François Fillon.
Je crois que nous poursuivons notre programme. Vous voyez, lorsque j'étais venu chez vous, personne n'aurait parié sur Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il est en tête de tous les sondages. Pourquoi? Parce qu'il correspond à une envie de renouveau dans le pays. Vous voyez, moi, ce qui m'a séduit chez Emmanuel Macron, c'est qu'il comprenait le monde d'aujourd'hui et de demain. Pas simplement le monde d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans.
Ça, c'est Alain Juppé, ça, le monde d'il y a 30 ans, c'est pas très aimable.
Non, mais on voit bien qu'Emmanuel Macron est totalement en prise avec le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Voyez le mouvement qui doit porter demain notre économie, le mouvement des jeunes entrepreneurs, des start-up, ces grands bouleversements qui vont se faire autour de nouvelles thématiques,
les
thématiques
du climat,
de l'écologie.
Pardon, monsieur Collomb,
oui,
vous comprenez ce monde.
Mais c'est pour cela, si vous voulez.
Pardon.
C'est pour cela que j'ai
plus d'une génération Juppé que d'une génération Macron.
Mais c'est pour cela que j'ai choisi quelqu'un comme Emmanuel Macron dès le début, parce que au départ, j'aurais pu faire des choix différents. Et j'ai dit à ce moment-là, il faut faire un saut générationnel. Et moi, ce qui me plaît dans ce qui se passe autour d'Emmanuel Macron. C'est que vous avez à la fois des gens d'expérience, bien sûr, vous en avez quelques-uns ici qui, dans leur domaine, ont une certaine expérience. Mais en même temps, c'est cette jeunesse qui est en marche et qui va nous permettre de changer notre pays.
Pardonnez-moi, mais le centre droit, je vais revenir encore sur Jean-Louis Borloo, parce que tout à l'heure, vous ne sembliez pas vouloir répondre.
Mais je ne sais pas, Jean-Paul Delevoye, par exemple, vient de la droite. Anne-Marie Drac vient de la droite. Ils ont rejoint Emmanuel Macron et vous en avez des dizaines et des dizaines qui, aujourd'hui, se disent c'est autour d'Emmanuel Macron que se compose le nouveau paysage politique de demain.
Borloo, il vous ferait peur ou pas ?
Mais Borloo, moi j'aime beaucoup Jean-Louis Borloo. Si vous voulez, par exemple, je lui reconnais d'avoir fait l'ANRU. Mais moi, je serais à la place de Borloo. J'aurais pas hésité depuis longtemps. J'aurais rejoint Emmanuel Macron parce que c'est là qu'il aurait toute sa place. Parce qu'autrement, il va se retrouver dans les mêmes difficultés que par le temps passé. Souvenez-vous de Jean-Louis Borloo qui espérait être Premier ministre et qui ne l'a jamais été.
C'est une menace.
Et ben, ça serait à nouveau la même chose dans la même situation.
C'est une menace à Jean-Louis Borloo. Là.
Non, c'est pas une menace.
Il faut qu'il se dépêche de marcher, sinon ce sera trop tard.
C'est la plaie simplement.
Voilà, c'était le replay du grand jury de Gérard Collomb. Nicolas Domenac, pourquoi Jean-Louis Borloo ne rejoint pas Emmanuel Macron ? Je crois que vous avez une réponse.
Oui, d'abord, un Jean-Louis Borloo qui n'hésiterait pas, ça ne serait plus Jean-Louis Borloo. Et en plus, maintenant, il a tellement hésité que la place à côté d'Emmanuel Macron a été prise, la place de, par François Bayrou. Donc, il ne peut plus aller maintenant auprès d'Emmanuel Macron.
On revient à l'événement du jour. François Fillon au Trocadéro. Guillaume Perrault du Figaro est toujours à nos côtés. On a vu des sarkozystes derrière François Fillon cet après-midi, notamment François Baroin et d'autres.
Oui,
qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça prouve qu'il n'y a plus aucune unité. C'est déjà réducteur de dire, voilà, il y a trois camps homogènes. Il y aurait d'un côté les jupéistes, de l'autre... Les jupéistes, c'est ceux qui sont les plus homogènes. Mais enfin, je l'admets. Mais il n'y a pas de... Les sarkozystes sont extrêmement divisés. Par exemple, Estrosi, aujourd'hui, a pris des initiatives qui sont un peu menaçantes pour Fillon. Mais par contre, Éric Ciotti... originaire du même département,
Alpes-Maritimes. Hein.
Oui, évidemment, c'est certain. Mais enfin, ça alimente la chronique locale. Mais lui, il était là et bien là, il est bien visible. Il y avait Baroin, il y avait Châtel, il y avait Goujon, qui est un sarkozyste historique.
Christian Jacob.
Il y avait Jacob. Je crois me rappeler qu'il y avait Accoyer aussi. Alors lui, il avait soutenu Fillon d'emblée, c'est vrai. Mais voilà, c'est pour vous dire que la situation est vraiment incertaine, complexe, et dès qu'on essaie de la caractériser, on risque de la caricaturer tellement elle est mouvante.
Derrière ma question, il y en avait une autre, en fait. Quel rôle joue Nicolas Sarkozy en ce moment ?
Il réunit demain matin sa garde rapprochée, hein ? Christian Jacob, Brice Hortefeux, François Baroin, et puis je ne sais plus qui d'autre encore. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, il les réunit pour étudier la question. Il a eu François Fillon au téléphone, et il lui a dit qu'il fallait que ça s'arrête. François Fillon lui avait demandé un délai jusqu'à ce soir. Donc, voilà. Et Nicolas Sarkozy, il lui a quand même bien fait comprendre que si ça continuait, il serait peut-être obligé d'intervenir publiquement. Et manifestement, ça a porté, et dans la journée d'hier, d'après ce qu'on m'a expliqué, François Fillon a quand même vacillé. Il hésitait beaucoup. Est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois m'arrêter ? Et puis finalement, il a pris l'option qu'on a déclinée tout à l'heure, manifestement. Dans l'immédiat, en tout cas, il n'a pas l'intention de succomber, de s'en aller. Et dans le fond, il a remis, je dirais, il était assiégé. Eh bien, il a remis la balle au centre.
Si je peux juste confirmer qui est minuscule peut-être, mais qui aura son importance si ça se voit dans l'avenir, c'est qu'il a dit à François Fillon, alors qu'il avait dans son bureau Jean-Pierre Raffarin et le président du Sénat, ça ne peut plus continuer comme ça. Hein, donc ça, c'est clair. Donc ça devrait ne plus continuer comme ça. Et quand ? Demain ou ce soir ?
Le MacPol, Philippe Robuchon.
Dans le MacPol, vous le savez, on essaye de donner la parole à tout le monde, à toutes les sensibilités. On va parler de la gauche maintenant, de cet accord validé dimanche dernier entre les Verts et le Parti Socialiste. C'est le sujet qu'a souhaité évoquer la famille Vigny, famille parisienne, plutôt de gauche, plutôt écolo, qui a donc vu disparaître Yannick Jadot. Le candidat s'étant retiré au profit de Benoît Hamon. Alors, est-ce une bonne nouvelle ? Est-ce un bon accord pour les gens de gauche, pour les écolos ? C'est la campagne en famille. Reportage Alice Moreno, Maud de Carpentier.
La campagne en famille.
Et si on en parlait ? Retrouvailles avec Lévinie. C'est Laurence, écologiste convaincue, qui nous reçoit dans son salon.
Je vais boire des choses. Tu y vas, Juju ?
Après avoir parlé du duel entre Benoît Hamon et Manuel Valls, cette semaine, la famille revient sur l'accord conclu entre le candidat socialiste et Yannick Jadot.
À gauche, les choses sont claires. Les électeurs écologistes ont validé hier l'accord conclu entre Yannick Jadot et Benoît Hamon.
L'accord prévoyait de réserver 40 circonscriptions aux écologistes.
Le frondeur frondé, Benoît Hamon attaqué par l'aile droite du PS.
C'est juste des gens du PS qui font « on a moins de pouvoir, on aura moins de circonscriptions » et ça, ils n'ont pas aimé non plus.
Léo, 22 ans, étudiant.
Bah, après, c'est logique de faire un accord à partir du moment...
Sa maman, Laurence, paysagiste.
Jadot se dédie pour lui. Concrètement, il faut qu'il y ait aussi un retour sur les législatives. Ça paraît assez normal.
Et c'est vrai que ça doit poser des fractures avec... cette partie du PS qui, elle, est très républicaine, très liée aux industriels.
Je pense qu'au point où on en est...
Daniel, la grand-mère, 68 ans.
Une grande partie des leaders socialistes va soutenir Macron. Moi, personnellement, je suis déçue du comportement de Benoît Hamon depuis qu'il a été choisi à la primaire socialiste. Il ne s'adresse pas aux gens. Vous allez dire, vous, au boulanger, je veux pour vous un avenir désirable. Il reste sur des sujets... élitiste, parce qu'il ne veut pas être président.
Bah, je ne suis pas trop d'accord, enfin, je pense qu'il veut quand même être président. Enfin, je sais pas,
Juliette, sa petite fille.
Il veut prendre le parti socialiste.
Ouais, et puis je pense qu'il a quand même des ambitions présidentielles, si. Après, je suis d'accord sur un point, ça me fait mal au cœur de le dire, hein. Mais je pense que le seul qui pourrait rassembler assez, c'est Macron.
Marine Le Pen serait battue au second tour à 58% par Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, lui, dévoile son programme.
Celui qui fait la course en tête dans les sondages avec Marine Le Pen entre enfin dans le détail.
Il y a des marqueurs à droite, des marqueurs à gauche.
Pour moi, Macron, c'est plutôt l'immobilisme social-démocrate.
Non, tu peux pas dire ça. Tu regardes les mesures qu'il propose. C'est des changements extrêmement forts sur les retraites, sur le système d'allocation chômage.
Moi, je me suis toujours dit, il faudrait qu'il y ait qu'une sorte de contrat, qu'une caisse de sécu, qu'une caisse de retraite et que tout le monde ait droit au chômage, quel que soit ce qu'il a fait dans la vie. Moi, j'ai été en libéral et je suis fonctionnaire maintenant, donc j'ai été un peu aux deux extrémités et je vois les deux problématiques de ces deux extrémités.
Le problème, c'est qu'il propose rien sur l'encadrement de la finance. Quand on a travaillé chez Rothschild, c'est vrai qu'on a du mal à encadrer la finance et moi, ça m'interroge sur la réelle crédibilité de la personne, en fait.
Macron, j'aime pas trop son personnage et il y a un truc qui me dérange un peu. Mais c'est vrai que, enfin, tout sauf Marine Le Pen, et peut-être voter Macron dès le premier tour, ça permettra de l'avoir au second tour et dans ce cas-là, il pourrait remporter face à Le Pen.
Mais dans une hypothèse Le Pen-Fillon, aujourd'hui, je dirais, je ne vais pas voter.
Je suis tellement viscéralement flippée d'avoir Marine Le Pen. Elle va être très très présente, l'idée du vote utile, c'est sûr. Il y a Macron.
Le sauveur.
Aujourd'hui, pessimiste sur les chances de Benoît Hamon d'accéder au second tour, Lévigny espère qu'Emmanuel Macron détaillera davantage son programme écologique.
La campagne en famille.
Et si on en parlait ?
Reportage signé Maud de Carpentier, Alice Moreno pour RTL. Voilà, il est 18h54, il nous reste 5-6 minutes avant la fin de ce MacPoll. Pour revenir à l'info du jour, François Fillon, le Trocadéro, tout ce qui peut se passer maintenant, ce soir France 2, demain le comité des Républicains. Il y a une donnée qui est quand même capitale, c'est le calendrier. On est le 5 mars et la fin des parrainages, c'est le 17. Il ne reste que 12 jours pour décider de l'avenir du candidat de la droite, Guillaume Perrot.
Oui, et comme Olivier le disait, on en parlait pendant la pause, eh bien, tout jour qui passe est gagné pour Fillon, et un point qui avantage Fillon, parce que pour reprendre le flambeau maintenant, chaque jour qui passe, c'est plus difficile. Donc, il est certain qu'il prend une responsabilité si jamais il se maintient. Mais il y a aussi un argument qui va peser, c'est les sondages qui pourront mesurer l'impact de la journée que nous venons de vivre. Là, les sondages qu'on a, ils ont été faits avant. Donc, on va voir ce que ça donne après. Si vous avez des sondages concordants qui indiquent qu'il reste à 20% ou qu'il revient à 20%, il pourra toujours arguer que pendant la vraie campagne, lorsqu'on saura enfin qui est candidat et qu'on pourra enfin parler du fond, eh bien, il peut espérer remonter au-dessus de Macron, puisque Macron a des fragilités bien connues.
Nicolas Domenac.
Oui, je crois peut-être que chaque jour qui passe est un jour gagné pour
François Fillon, mais c'est un jour perdu, je trouve, pour le débat démocratique. Et que je sens, moi, un immense ras-le-bol de cette ambiance délétère à laquelle il faudrait mettre fin le plus tôt possible. Même si c'était possible ce soir, allons-y. Parce que le débat, il doit quand même avoir lieu. Il doit y avoir un échange d'arguments. Il paraît que c'est comme ça, une campagne présidentielle. Mais on ne l'a pas. On ne l'a pas. Et à cause de ça, à cause de François Fillon. Donc, soit il stoppe tout de suite, soit il y va, mais qu'on sorte de cet entre-deux insupportable.
Oui, je dirais que chaque jour qui passe, c'est aussi un jour gagné par Emmanuel Macron, parce qu'il est à l'heure actuelle le seul candidat dont on peut parler du programme, puisqu'il est le seul à ne pas être concerné, soit par des affaires, soit par l'incapacité à se rassembler.
Alors, 18h56, on va faire un rapide tour d'horizon de l'agenda politique de la semaine. Demain, lundi 6 mars, il y a le fameux comité politique des Républicains. Demain soir, 18h, on verra si des décisions sont prises. Peut-être seront-elles prises d'ici là. Mardi, il y a le Conseil constitutionnel qui va publier un nouveau décompte des parrainages. Ce sera important. Un meeting du candidat des Républicains était prévu au Zénith d'Orléans, mardi. On verra si ce sera avec ou sans François Fillon. Il y avait une info intéressante dans le journal du dimanche ce matin, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas eu de visite préparatoire. D'habitude, il y en a. Là, il n'y en a pas eu. Mercredi, c'est la journée de la femme. C'est le jour également où Marine Le Pen sera la deuxième invitée des petits déjeuners de la présidentielle sur RTL. Mmh. Vous avez été très nombreux à suivre le premier vendredi.
On aura peut-être aussi une autre interview de Pénélope Fillon, puisque c'est la journée de la femme.
Peut-être. Alors, donc, mercredi, Marine Le Pen sur RTL pour les petits déjeuners de la présidentielle. Vendredi, ça a bien marché avec Emmanuel Macron. Cette fois, ce sera donc avec la présidente du Front National, toujours de 7h à 9h avec Yves Calvi et toutes les grandes signatures de la maison. Jeudi, il y a un meeting de François Fillon à Besançon. Trois petits points, on verra. Samedi, Marine Le Pen à Châteauroux. Peut-être évoquera-t-elle ce jour-là un triste anniversaire, puisque ça fera déjà 5 ans le début des attentats commis par Mohamed Merah à Toulouse et à Montauban. Merci Olivier Mazerolles, merci Guillaume Perrault du Figaro, merci Nicolas Domenach, c'est la
merci
fin de ce MacPol. Merci également à Patrick Durieux, Adeline Courson et Thomas Jay qui ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant, les infos de 19h. Juste après, les dessous de l'écran, on va fêter les 30 ans de M6 avec deux invités. Emmanuel Chin, qui a connu la chaîne à ses débuts. Ophélie Meunier, qui est arrivée l'an dernier. Et puis, on va revenir sur le phénomène télé de la semaine. Bonne nouvelle pour TF1, le succès d'audience de The Wall, le nouveau jeu animé par Christophe de Chavannes. À tout à l'heure.